niveau rotatif jambe gauche, clé du bras droit et j'immobilise, compris ? Bon, mise en situation, vous ?
Moi ?
Oui. Alors, scénario, un cambrioleur s'introduit chez vous en pleine nuit. Vous devez le neutraliser. Je fais le cambrioleur, allez-y.
Alors, pivot rotatif du bras droit.
Pour rester serein, confiez plutôt votre maison au professionnel Verisur. Pour une installation gratuite, appelez vite le 3112 ou rendez-vous sur verisur.fr.
Vous quittez le cours ?
Ah oui.
Vous êtes sûr ?
Ah oui, oui, Verisur.
Verisur par Securitas Direct, numéro 1 européen des alarmes télésurveillées.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le musée d'Orsay propose en ce moment et jusqu'au 17 janvier une exposition intitulée « Splendeur et misère, images de la prostitution 1850-1910 ». Franck nous en parle cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. L'une des commissaires de l'exposition est avec nous dans ce studio, ainsi qu'une historienne des mœurs. Nous allons parler des maisons closes de la Belle Époque, au sens large, après que je vous aurai raconté une histoire de prostitution qui se situe un peu plus près de nous, dans les années 1930.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Jean sur l'origine du mot bordel.
Mais je vous trouve bien mal embouché.
C'est vendredi. C'est ça.
Vous allez perdre votre voix si ça continue. Oui. Mais la question est intéressante. Le grand témoin que je vais convoquer dans un instant employait des mots plus argotiques. Elle disait un claque ou une tôle.
Europe 1. Cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Il y a 5 ans, je vous avais présenté sur cette antenne un témoignage tiré des longues confidences qu'au tournant du siècle et pendant plusieurs années, de façon régulière, souvent le samedi après-midi, j'avais recueilli d'une vieille dame qui avait fini par devenir une amie. Cette dame, que nous appellerons Michel, avait connu pendant un quart de siècle à peu près toutes les formes de maisons closes ou de maisons de rendez-vous qui ont pu exister. Ces souvenirs, que j'écrirai peut-être un jour si le temps m'est donné, ces souvenirs couvrent l'histoire de la prostitution des années 20 aux années 50. Nous sommes là dans la période qui suit celle évoquée par l'exposition du musée d'Orsay. Nous y viendrons tout à l'heure, bien entendu. Je vous emmène dans le Paris des années 1930, début des années 30, celui des grands boulevards et des films de Marcel Carné, le Paris de Mistinguette et de Sacha Guitry, mais aussi un Paris moins brillant, celui où grenouillent toutes sortes de marlous, de macs et d'entrelardés, comme on dit dans le milieu, pour désigner ceux qui ne sont pas vraiment du bâtiment. C'est sur fond de terrain vague et de vieilles réclames pour du beau, du bon, du bonnet qu'il faut imaginer la petite Michelle, livrée à elle-même. À 16 ans, elle est une jeune fille sans histoire, ou en tout cas, pour être juste, sans trop d'histoire. Pour tout dire, elle a quitté, voilà quelques mois, le modeste foyer parental après la mort de son père. Elle a un peu traîné à droite et à gauche, elle a vécu chez une amie, connu la grande précarité des adolescents en rupture de famille. Pour obtenir l'émancipation légale, et je précise que ça n'était vraiment que dans ce but, elle a épousé le premier venu, un coureur cycliste au chômage. Elle s'est empressée de divorcer et maintenant elle vit en banlieue parisienne comme ouvrière dans une fabrique de piles électriques. Tout un climat, toute une époque. Le seul divertissement de la jeune Michelle, c'est le bal. Le bal, grande affaire de la jeunesse de ces années 30. La gamine sort souvent, or à Paris, dans ces années-là, certains bals ont très mauvaise réputation. L'As de pique ou la boule rouge sont de ceux-là, mais aussi le chat qui miaule, où Michelle se rend régulièrement depuis quelques semaines. Les hommes qui fréquentent le chat qui miaule ont 30 ou 35 ans, complet et chapeau d'alpaga, le diam au doigt, de quoi fasciner Michel. Le soir, elle vient là, elle regarde, elle repère, et ce soir-là, elle repère un homme qui a de la classe, comme elle le dira. Il est seul à sa table, elle ne le quitte pas des yeux, jusqu'à ce qu'il l'invite à danser, en sifflant, comme ça se fait ici. Il s'appelle Paul. Michel n'est pas déçu, son cavalier l'entraîne dans plusieurs javas endiablés. Désormais, la jeune femme est comme magnétisée. Et plusieurs soirs de suite, elle va faire son possible pour séduire Paul. Elle le dévore de ses yeux gris. Elle agite ses longs cheveux dorés. Et Paul feint une quasi-indifférence. En tout cas, il garde ses distances et se contente de la regarder fixement de temps à autre, comme s'il se posait des questions. Il est évident qu'en fait, il la trouve trop jeune. Il se méfie du détournement de mineur. Alors elle lance « Vous venez souvent ici ?» En tout cas, vous dansez bien. Bon, tu sais, moi, c'est clair, il n'a pas envie de perdre son temps. Il le lui dit carrément, te fatigue pas, va, t'es trop jeune pour moi. Jeune, c'est vrai, mais je suis majeur. » Il sourit en secouant la tête, il n'en croit pas un mot. « Je suis majeur parce que j'ai déjà été marié. » Ah, ça change tout. D'un geste, l'homme commande le champagne. Il se présente, Paul. Le soir même, il l'emmène à l'hôtel. Il la met dans son lit après avoir fait l'amour. Il lui demande sans embâge, « Dis-moi, est-ce que tu as bien compris qui je suis ?» Michel reste muette. « Tu sais que j'ai des femmes, oui. Ces femmes, elles travaillent pour moi, tu me suis ?»« Oui. » Michel n'a pas dit non. C'est comme si elle avait véritablement décidé de changer de vie. À 17 ans, elle pense avoir trouvé l'homme qui va diriger son existence. Le reste a peu d'importance à ses yeux. Elle fera ce qu'on lui dit de faire. Le fameux Paul l'emmène alors avec lui à Saint-Germain-en-Laye pour la placer dans une maison dont la tenancière les accueille avec un air vaguement amusé. « Je vous présente ma femme, dit-il, elle débutera chez vous. » Sa femme, Michel en est sûr, elle a tiré le bon numéro. Ce n'est pas la sous-maîtresse qui va la détromper, elle va au contraire lui apprendre le métier. « Il faut que tu fasses honneur à ton homme, lui dit-elle, tu sais que tu es sa 11e femme. » « Ça ne fait rien, se dit Michel, au contraire, elle est honorée que son homme ait beaucoup de femmes. Cela prouve qu'il est un vrai caïd. Elle est débutante, elle doit donc tout apprendre du métier. » La patronne un jour l'accompagne à la préfecture de police, service des mœurs, pour la faire inscrire sur le fichier des filles soumises. Quand une femme arrive ainsi dans une maison, elle fait ce qu'on appelle sa nouveauté. La plupart des clients habitués veulent monter avec elle. Or, Michel se montre consciencieuse dans son travail. Son but est de rapporter beaucoup d'argent à son homme. Un soir, la patronne la regarde d'un air curieux et lâche. « Tu sais, si t'arrive quoi que ce soit, tu seras toujours bienvenu ici. »« Pourquoi est-ce qu'elle me dit ça ?» se demande Michel. Elle ne va pas tarder à le comprendre.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
À l'occasion de l'exposition à voir en ce moment au musée d'Orsay consacrée à la prostitution, Franck Ferrand, vous nous proposez cet après-midi le portrait de Michel, jeune prostituée de 17 ans à Paris.
On me dit que ton apprentissage est terminé, c'est vrai ? Paul est de retour à Saint-Germain-en-Laye il y a quelques semaines qui se sont passées entre les deux, bien entendu. Je crois que je sais me débrouiller, répond Michel. Alors tu peux venir avec moi à Paris. Le cœur de Michel fait des bonds, son homme ajoute « Tu pourrais essayer le dehors, non ? Tu irais avec Mado ?»« Oui. »« C'est pas difficile, tu sais, tu marches tranquillement sur le trottoir, les clients tu les regardes bien en face, ça suffit. Tu n'as même rien à dire. » Michel pâlit, elle se dit qu'elle n'y arrivera pas. Elle le sent, elle le sait, et de fait elle se révèle très mauvaise dans son nouvel emploi. Un soir, depuis la terrasse de café où il est attablé, Paul lui fait signe d'approcher. Il est avec trois amis et Michel les salue, un peu intimidée. Elle est persuadée qu'on va lui reprocher de ne pas faire de clients, au lieu de quoi elle entend ces mots magiques. « Messieurs, je vous présente ma femme. » Pour Michel, c'est l'extase. Le moindre mot de la part de son homme la transporte. Il se tourne vers elle et lui demande « Tu voudrais pas aller danser ?» Cette fois, c'est trop beau. Et au milieu d'un tango, il lui glisse à l'oreille « Je vais acheter un bar en Afrique du Nord. Si tu veux, je t'emmène. » Michel manque un pas ou deux, elle croit rêver. Lui reprend « Tu commences à travailler un petit peu là-bas, un ou deux ans, et après... » Il regarde par terre. « Après, on s'installe. » « On s'installe. » Michel n'en croit pas ses oreilles. Son homme a 11 femmes et c'est elle qu'il a choisie pour se retirer des affaires. Dans les jours qui suivent, le voyage est arrangé. Les choses ont l'air de se faire d'elles-mêmes, comme par enchantement. Seulement voilà, la veille du départ, Paul reçoit un pneumatique. Sa mère a fait une attaque. Il doit se rendre à son chevet. Ah, ça tombe mal, et d'autant plus que la cabine sur le bateau est déjà réservée. « Le mieux, explique-t-il à Michel, c'est que tu partes avant moi, je te rejoindrai à Constantine dans 2 ou 3 jours. » Et pour la rassurer, il ajoute « Des amis à moi t'attendront sur le quai à Beaune, tu verras, ils sont un petit peu spéciaux, mais ce sont de braves types. » Michel hésite un peu, partir seul ne l'engendre vraiment pas, mais puisque Paul doit la rejoindre dans 48 heures, elle accepte. Après 2 jours de traversée, le La Mauricière entre de nuit dans le port de Beaune. En bas de la passerelle, Michel finit par trouver la voiture noire qui l'attend sur le quai. Paul avait raison, ses amis sont un peu spéciaux et pas causants du tout. Ils la conduisent sans un mot vers le sud du Constantinois, à la limite du Sahara, dans une grande maison isolée entourée de hauts murs. Une vieille femme leur ouvre, elle porte à la ceinture un lourd trousseau de clés. À peine entrée, Michel entend les 2 grosses portes se refermer derrière elle. Ça fait tout drôle. Heureusement, se dit-elle, que Paul ne va pas tarder à me rejoindre. Dans un coin de la cour, 2 molosses montent la garde. Pas très accueillant tout ça. Quant au maître de maison, c'est un homme borgne à la figure carrée, dur, qui la salue à peine. Il lui indique rapidement sa chambre et retourne se coucher. Le lendemain matin, la mauvaise impression se confirme. Cette maison n'inspire décidément pas confiance. Dans la grande pièce du bas, toute carrelée, les tables et les chaises sont rivées au sol, comme si l'on redoutait des bagarres. Le plus étonnant, Ce sont ces femmes à la balustrade tout autour du patio. Il y en a 6 ou 7, la plupart atteignant la quarantaine. Elles sont presque nues. Le premier jour, au milieu de l'après-midi, toutes les femmes descendent ensemble au salon. Le patron invite sèchement Michel à les rejoindre. Un homme les attend, entièrement dissimulé par une gandoura, avec des chiffons aux pieds tenus par des ficelles. Seuls ses yeux sont visibles. Michel a beau ne pas être très affranchi, comme on dit. Elle comprend que l'une des femmes va devoir monter avec ce fantôme dans une petite chambre là-haut. L'homme les passe rapidement en vue. Évidemment, il s'arrête à Michel. C'est elle qu'il désigne. Elle frissonne, elle regarde autour d'elle, elle tente de se dérober. Mais le borgne la rattrape par le bras et la pousse violemment vers le client. Elle s'évanouit. Quand elle reprend connaissance, elle est dans la chambre du patron. Le gros homme au visage de brute a l'air vraiment mécontent. « Un conseil, dit-il, ne me refais jamais ce coup-là. D'ailleurs, je vais tout de suite te mettre au parfum. Ici, c'est ce qu'on appelle une tôle à fond perdu. Ton homme, il t'a vendu pour 25 000 francs. Ce pognon, maintenant, je te jure que tu vas me le rembourser. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu fais tous les clients qui se présentent. » Puis il sort. Michel est complètement sonné, vendu, mais qu'est-ce qu'il raconte? Elle est convaincue qu'il ment, que Paul va arriver, la tirer de là. Elle s'accroche à cette certitude. Paul va venir. C'est un homme de parole. Seulement, les jours s'écoulent et Paul ne donne évidemment aucun signe de vie. Seul, sans défense, Michel est bien obligé de se soumettre, si seulement elle avait quelqu'un à qui se raccrocher. Mais les femmes n'ont pas le droit de communiquer avec elle. Même pendant la sieste, le patron les surveille. Assis à cheval sur une chaise, son gros bras autour du dossier, il somnole, et dès qu'une femme quitte sa chambre pour regagner celle de la voisine, il se redresse et hurle. « 100 balles, ma belle! N'oublie pas qu'il dort jamais, l'ordure !» Ces 100 francs s'ajoutent à la dette de la femme mise à l'amende. Comme par ailleurs tout est payant dans la maison, le compte s'allonge indéfiniment, aucun espoir de rembourser tout ça. La journée, Michel est cantonné dans sa chambre, sauf quand un client se présente au salon. Et à ce moment-là, le patron crie « Allons, allons vite, au choix, mesdames !» Étant nouvelle et de loin la plus jeune, Michel a la préférence des clients. Pour elle, c'est un véritable supplice. Elle s'y refuse de tout son être et comme il n'y a pas moyen d'y échapper physiquement, elle tente de fuir par la pensée. Alors elle s'imagine que ce n'est pas elle qui se livre, que c'est une autre. Le soir, de 8 heures à minuit, elle descend dans la grande salle où elle fait les 100 pas avec les autres femmes. Elles sont toutes là, marchant autour des tables rivées, jusqu'à ce qu'un client les choisisse. Et dès qu'une femme ralentit, le patron frappe dans ses mains et crie « On tourne, mesdames, on tourne !» De temps en temps, il arrive qu'un client appelle plusieurs femmes à la fois. Elles en profitent pour échanger quelques mots. Et c'est comme ça qu'une femme qui porte toujours une croix du sud en or peut confirmer à Michel les propos du tenancier. « T'es marron, lui dit-elle tout bas. « C'est pareil pour nous toutes. »« Oh non, pas pour moi. Si, si, t'es marron comme les autres. » Avec le temps, Michel doit bien se rendre à l'évidence, elle a été piégée. Si elle veut espérer se sortir un jour de cette maison du désert aux allures de maison forte, elle devra compter sur elle-même, elle ne pourra compter que sur elle.
Jusqu'à 15h cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand revient sur l'histoire des filles de joie. Si vous voulez réagir, posez vos questions à Franck Ferrand et ses invités. Rendez-vous sur la page Facebook Au cœur de l'histoire, sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Tous les jours, à partir de 16h sur Europe 1, vous pouvez jouer avec toute l'équipe des pieds dans le plat. Cette semaine, Europe 1 et la Baba Roulette de Cyril Hanouna vous offrent une console Wii U avec le jeu Super Mario Maker, ainsi qu'un artbook, ou un séjour en famille au Futuroscope, ou encore un rétroprojecteur Philips PicoPix. Pour tenter votre chance, envoyez PDLP par SMS au 739 21 65 centimes plus coût d'un SMS.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Franck Ferrand, pour cette émission consacrée aux filles de joie, cet après-midi, vous nous emmenez sur les pas de Michel qui découvre sa nouvelle vie à Constantine.
Oui, elle est prisonnière dans les fins fonds du Constantinois, prisonnière de cette maison de plaisir d'un genre particulier que dans le jargon du milieu on appelle une tôle à fond perdu. Elle se dit qu'il doit bien y avoir un moyen d'en sortir. Le seul contact de la jeune femme avec l'extérieur, c'est le médecin qui chaque semaine vient pour la visite. Seulement, comment lui parler ? En fait, dès la deuxième visite, le docteur, comme on l'appelle dans la maison, lui facilite la tâche. « Tu es bien jeune, lui dit-il. Tu n'as jamais pensé à une autre vie ? Je ne pense qu'à ça, mais je ne sais pas comment sortir d'ici. Écoute, dit le médecin en baissant le ton, voilà ce que nous allons faire. » En pleine nuit, une fois la maison endormie, Michel descend sur la pointe des pieds et se faufile vers l'arrière-cuisine, en faisant bien attention de ne pas réveiller les gros chiens. Elle s'approche de la porte qui donne sur la cour de derrière et, en retenant sa respiration, frappe 5 petits coups comme convenu. Pas de réponse. Michel se désespère, son complice l'aurait-il oublié? Elle frappe à nouveau 5 coups, un peu plus fort que les précédents. Cette fois, la serrure grince, son cœur bat fort, la poignée s'abaisse, la porte s'entr'ouvre. Mais ce n'est pas le médecin qui apparaît. C'est le patron. Tu croyais lui échapper à l'ordure, hein? Tu prends le toubib pour un cave. Elle voudrait se sauver, mais le borgne lui saute dessus et la roue de coups. La correction est sévère et même très sévère, il va lui falloir une semaine pour s'en remettre. Maintenant, Michel est convaincu qu'elle ne sortira jamais de cette maison. D'ailleurs, si elle s'échappait, où irait-elle? À moitié nue, sans papier, dans un pays qu'elle ne connaît pas, elle serait vite arrêtée, ramenée à sa prison, car la police elle-même est en cheville avec le patron. Un soir, la femme à la Croix du Sud réussit à la prendre à part et lui dit « Je sens que tu as des tripes, tu en as dans le ventre. » Et parlant du salaud qui l'a vendu, « Tu t'en sortiras, lui dit-elle, tu le retrouveras, tu le buteras. » Cette phrase, Michel va le retenir et se la répéter inlassablement pendant 2 ans et demi. Même quand tout espoir semble perdu, elle ressasse son objectif, son seul but, « Tu t'en sortiras. » Le plus étonnant dans cette histoire, c'est que Michel s'en est finalement sorti. Comment? Eh bien en changeant radicalement d'attitude, en jouant à fond son rôle, en apparence du moins. Évidemment, elle a beaucoup de clients de plus en plus. Il y a l'alcool dans cette maison, il y a la drogue. Même ivre, elle ne manifeste plus aucun désir de liberté. Ce qui fait que le patron se met à lui faire confiance. « Tu es une bonne fille dans le fond », lui dit-il. Assez souvent, le borgne organise des soirées avec plusieurs tenanciers du Constantinois et à chaque fois, les femmes qui les accompagnent sont là et elles les font boire, et notamment elles commandent beaucoup de champagne. Or Michel sait qu'un des hommes qui se trouve là l'a remarqué. Au lieu de le repousser comme elle aurait fait auparavant, elle va s'appliquer à le séduire. Elle n'hésite pas à minauder quand il faut et un soir, le patron lui annonce en désignant l'homme en question « Tu vois ce monsieur? Eh bien il paie toutes tes dettes, tu t'en vas ce soir avec lui ». Sur le coup, Michel n'ose y croire, mais quand elle entend les 2 portes se refermer, cette fois dans le bon sens, si je puis dire, cette fois derrière elle, elle comprend qu'elle revient de loin. 5 mois plus tard, elle est de retour à Paris. Plus que jamais, au fond d'elle-même, la petite voix se fait entendre. « Tu le retrouveras, tu le buteras. » Retrouver Paul est un jeu d'enfant. Elle le repère un soir dans un de ses bals favoris, place Pigalle. Il est en train de danser, il n'a pas changé, toujours aussi bel homme. « Tu le buteras. » Dans son sac à main, elle serre le revolver, un revolver qu'elle a réussi à se procurer dans des conditions très compliquées, dans une autre maison où elle a passé 4 mois à Marseille. Je passe un peu vite. Elle s'approche de lui, il se raidit, il l'a reconnue. Elle a pourtant beaucoup changé, Michel. Elle n'est plus du tout la petite fille innocente qu'il avait vendue. Il retourne s'asseoir, elle le suit et crie « Sors, fumier, si t'es un homme !» Il essaie de se justifier. Elle brandit son revolver, elle l'insulte. « Tu es vraiment le roi des fumiers. » Il veut protester, il se lève. Elle le cramponne par les cheveux et lui enfonce le canon dans la bouche. Le chapeau part sur le côté. Elle tire 2 balles. Il s'est affalé sur sa chaise. Michel s'assied en face. Elle reste prostrée. En attendant l'arrivée de la police, à son procès, elle bénéficiera des circonstances atténuantes que le jury des assises des Bouches-du-Rhône va reconnaître et va admettre. Elle ne sera condamnée, si je puis dire, qu'à 3 ans de prison ferme. En vérité, elle s'en moque. Pour elle, l'objectif est atteint. Elle s'en est sortie. Elle l'a retrouvé. Elle l'a buté. On peut dire que cette affaire est une des affaires les plus dramatiques qu'on puisse imaginer dans le parcours d'une jeune prostituée des années 1930. Il n'empêche que pour elle, ce n'est que le début d'un très long parcours. Elle connaîtra non plus vraiment les maisons closes, comme on disait dans la période précédente, mais ce qu'on appellera les maisons de rendez-vous, et notamment les taux La Passion, où des messieurs très puissants, très fortunés viennent chercher leur punition. On la retrouve aussi au Fourcil, au One Two Two. Le 10 mai 1940, elle prend avec une camarade les routes de l'Exode. Elle va se retrouver à Biarritz, où elle fera la joie de l'occupant, si je puis dire. En 1944, elle ira au-devant des libérateurs, dans des bordels improvisés dans les garages et les buanderies de Normandie. Puis elle suit les soldats français dans la zone d'occupation française en Allemagne, avant de rentrer à Paris, pour apprendre que Marthe Richard a fait fermer les maisons closes. C'est alors 1 siècle de pratiques et d'habitudes qui se clôt. Un sujet qui, depuis le Second Empire au moins, avait fasciné les artistes, c'est sur cet aspect-là que nous allons désormais nous pencher. Bonjour Isolde Pludermacher, vous êtes conservateur au musée du Louvre et co-commissaire de cette exposition où l'on voit beaucoup d'œuvres d'art inspirées par la prostitution. Et bonjour Gabriel Houbre, vous étiez déjà venu nous parler de ces filles un peu particulières il y a quelque temps. On va revenir avec vous sur tout l'imaginaire qui accompagne ce phénomène.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et aujourd'hui, Franck, jusqu'à 15h, vous revenez sur l'histoire de la prostitution avec deux invités. Isolde Pludermacher, conservateur au musée d'Orsay, l'une des commissaires de l'exposition Splendeur et misère, images de la prostitution 1850-1910. Et Gabrielle Houbre, historienne à l'université Paris Diderot, Paris 7.
Alors il faut, mesdames, que nous revenions un peu sur le contexte, puisque l'exposition du musée d'Orsay, non pas du musée du Louvre, parle évidemment, enfin nous montre tous les reflets en quelque sorte de ce phénomène de la prostitution à travers les arts, notamment essentiellement même à travers la peinture qui est très très présente dans cette exposition. Mais il faut peut-être que nous situions les choses. Je viens de raconter l'histoire d'une prostituée qui se situe dans les années 1930, même si sa vie et son histoire s'est prolongée jusqu'au tout début des années 1960, la prostitution déjà avait changé par rapport au phénomène qu'on observe dans les œuvres du musée d'Orsay, Gabriel Houbre.
Oui, encore qu'on pourrait retrouver également ce type de maison d'abattage, dès le 19e siècle, en fait, ce qu'on appelait les bouges à matelots et autres maisons de ce type, qui sont d'ailleurs en peinture, si je puis dire. Isolde vous en parlera mieux que moi.
Est-ce qu'on peut dire que la prostitution s'institutionnalise d'une certaine manière au XIXe siècle, parce que on dit toujours c'est le plus vieux métier du monde et on aurait pu faire une émission sur des siècles et des siècles de prostitution. On a l'impression que ça devient quasiment un phénomène socio-culturel au milieu du XIXe siècle.
La prostitution fascine, ça c'est certain. Elle fascine les artistes, les écrivains, les peintres, les photographes. Ils s'en servent aussi également pour faire leur propre commerce à eux. Mais c'est surtout que le 19e siècle est le grand siècle du réglementarisme, qui est quand même une particularité tout à fait française et qui a d'ailleurs été exportée vers l'Angleterre.
Qu'est-ce que vous appelez le réglementarisme? C'est-à-dire une forme de bureaucratie de la chose?
Il y a un petit peu de ça, et effectivement, vous avez raison. En fait, c'est le système que l'État a mis en place à partir du consulat essentiellement, qui permettait en fait un contrôle assez poussé des prostituées, avec en particulier comme pierre angulaire la maison close, qui permettait évidemment d'avoir un regard très affûté de la part des policiers sur ces femmes, et puis également l'encartage, si je puis dire, des femmes qui travaillent dans la rue.
Alors il faut bien faire effectivement cette première distinction. Qu'est-ce qu'on appelle une maison close? Quel est son statut juridique, si je puis dire, à cette maison close? Est-ce que c'est une chose reconnue par les autorités?
C'est effectivement reconnu, c'est-à-dire que soit les maires, soit à Paris la préfecture de police délivrent des autorisations à des tenancières. Ce sont des femmes qui tiennent ces maisons. Les hommes sont pratiquement bannis de cet espace qui est un espace unisexué, hormis évidemment les clients. bien entendu, je ne les oublie pas. Donc elles sont, il y a une petite enquête, sont des femmes qui ne viennent pas forcément de la prostitution elle-même et qui, en revanche, participent à l'exploitation d'autres femmes.
Alors ces maisons closes, nous allons leur consacrer la première partie de notre entretien, et c'est une partie de l'exposition, c'est loin d'être tout le parcours en fait, Isolde Pludermacher.
Oui, l'exposition du musée d'Orsay est consacrée à la prostitution sous toutes ses formes. Oui. D'ailleurs, nous ne commençons pas le parcours avec les maisons closes, mais avec l'espace public, l'espace public parisien, majoritairement, de jour puis de nuit, puisque le jour, la plupart des règlements municipaux et le règlement parisien interdisaient le racolage.
Alors, nous allons venir tout à l'heure à ces formes-là de prostitution, beaucoup plus difficiles à cerner du reste. L'univers de la maison close est relativement connu. On a toujours les images de Maupassant d'un côté, de Toulouse-Lautrec pour ce qui nous concerne, etc. C'est un univers, c'est un climat quasiment, la maison close au XIXe siècle.
Oui, c'est un climat effectivement qui inspire beaucoup les artistes, aussi bien dans la littérature que dans la peinture, et en fait qui constitue presque un laboratoire pour les artistes à la recherche de nouveaux sujets, et qui c'est un petit peu l'envers du décor du monde et de la sexualité bourgeoise qui se développe dans ces maisons closes.
Alors, quelles sont les œuvres qui sont inspirées justement par ce milieu de la maison close? Est-ce que vous présenter des œuvres qui sont particulièrement marquantes ou représentatives?
Oui, alors Toulouse-Lautrec, bien sûr, est très représentée dans l'exposition. Nous avons la chance de rassembler un ensemble exceptionnel de ses œuvres. Mais je dirais que Toulouse-Lautrec a un regard assez particulier sur l'intérieur des maisons closes, qui se distingue des œuvres que nous présentons par ailleurs, par exemple de Constantin Guis ou de Edgar Degas ou de Félicien Rops, puisque Toulouse-Lautrec a un regard très empathique, on va dire, avec ses modèles. Il fait ressortir toute leur humanité, il montre les longs moments d'attente, et contrairement aux autres œuvres d'autres artistes, on ne sent pas la présence du client et ce regard masculin constamment posé sur ces corps féminins.
Le cinéma, surtout au lendemain de la fameuse loi Marthe Richard, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le cinéma a beaucoup utilisé ces maisons closes comme décor, en quelque sorte, et ça a familiarisé sans doute le public avec ce monde particulier. On y voit beaucoup le salon où attendent ces demoiselles.
Voilà, le salon qui, dans les maisons, enfin, il y a des salons dans les maisons d'un certain standing
oui.
Puisque il y a différents types de maisons closes qui vont du bouge à matelot jusqu'à la haute tolérance. Et dans les maisons d'un certain standing, il existe un salon qui est en quelque sorte le reflet du salon de l'intérieur bourgeois, où il y a des banquettes rouges et où les femmes attendent le client et lorsqu'il arrive, prennent la pose pour le séduire.
Avec une mise en scène de l'attente et de la séduction d'une certaine manière, Gabriel Houb.
Oui, effectivement, encore que il me semble que personnellement, les tableaux qui m'ont le plus intéressée en tant qu'historienne, je pense à en particulier un tableau de Toulouse-Lautrec qui s'appelle Seul, ou je crois que c'est pas tout à fait son même titre, et à propos de cette humanité, c'est-à-dire c'est un corps de femme sur un lit, et qui vraisemblablement fait partie d'une maison d'abattage, et qui est déshumanisé, mais en la déshumanisant, qui lui redonne justement toute son humanité. Moi, c'est plutôt ce genre de tableau-là qui m'intéresse.
Dans ces maisons closes, il y avait des rites, il y avait des pratiques, alors toute une hiérarchie. Je parlais tout à l'heure de la sous-maîtresse, etc. Il y a toute une hiérarchie, il y a tout un langage, bien entendu, qui est un langage, qui est une sorte de jargon qui va se développer avec le temps, que l'on retrouve dans les rapports de police, d'ailleurs. C'est très intéressant de voir à quel point les policiers sont parfaitement familiers, évidemment, de tout ce monde, ou de ce demi-monde, devrais-je dire. Et puis, il y a des pratiques, c'est-à-dire notamment tout le rituel de la toilette, qui est très important, et pour cause, puisque on est dans un endroit où peuvent se propager beaucoup de maladies, bien sûr.
Oui, alors à propos de la toilette, dans ce coin fermé, puisque je crois qu'il n'est pas accessible à tous les publics à l'intérieur de l'exposition, qui est le coin pornographie, puisque pornographie et prostitution sont très liées, il y a justement parmi ces films primitifs de la prostitution, il y a justement un exemple d'une toilette de prostituée. On peut aller voir exactement
les scènes
comment les choses se passent.
C'est ça le...
Oui, on a une section effectivement consacrée à la toilette et aux scènes d'intimité, sachant qu'effectivement les prostituées se lavaient beaucoup plus, et très fréquemment, parce qu'on croyait à l'époque que la toilette avait des vertus prophylactiques et empêchait donc la contamination des maladies vénériennes.
Vous nous avez parlé d'une fascination des artistes pour ce milieu et pour ce sujet, évidemment. Il y a une fascination de leurs clients aussi, de la clientèle. À qui s'adressent ces tableaux? À qui s'adressent ces scènes?
Alors ça dépend de quel tableau, puisque l'exposition montre des œuvres appartenant à des esthétiques très différentes. On a des œuvres naturalistes de Béraud qui sont plutôt destinées à une clientèle bourgeoise, où la prostitution apparaît sous la forme de discret sous-entendu, mais qui reste dans les limites de la convenance. Et puis on a des œuvres qui sont pas destinées à être exposées, qui font vraiment partie de la production privée des artistes, comme par exemple les monotypes de Degas qu'il n'a jamais exposé de son vivant. Et puis des œuvres, par exemple, de Manet ou de Degas, qui étaient exposées dans des circuits parallèles au circuit officiel et qui étaient vraiment destinées à choquer le bourgeois.
Est-ce qu'on observe une évolution de la maison close au fil des décennies, Gabriel Houbre?
Oui, et d'ailleurs, à partir du Second Empire, elle commence à décliner, elle est concurrencée.
Dès le Second Empire.
Oui, dès le Second Empire, c'est-à-dire au moment même de
son apogée, disons. Oui.
De son apogée et de son exportation, justement, en Angleterre. En fait, elle décline en France et elle est concurrencée par les maisons de rendez-vous auxquelles vous avez d'ailleurs vous-même fait allusion, qui sont des maisons où les prostituées ne logent pas, elles viennent travailler simplement, et où la clientèle, en fait, qui est souvent de la bonne bourgeoisie, a l'occasion d'avoir des volontés plus personnalisées, si je puis dire. Et aussi,
on vient chercher des thèmes, en quelque sorte. Hein.
Peut-être, oui. Oui, peut-être.
Des plaisirs
thématisés. Il y a une personnalisation, en tout cas, des parcours de plaisir, si je puis dire. Oui. Et puis, en même temps, il y a aussi plus de discrétion. Je pense que le caractère très collectif de la masculinité dans les maisons closes s'amenuise et qu'il y a cette volonté donc voilà, d'avoir une autonomie un peu de désir davantage respectée.
Avec là encore des niveaux et des standings, hein, c'est ce que vous disiez tout
Absolument.
À l'heure.
Absolument, à chaque fois qu'on parle de prostitution de toute façon, il y a des niveaux de fortune très différents qu'il faut avoir en tête.
Alors justement, nous allons sortir des maisons closes, faire un petit tour par les alcôves des grandes courtisanes, ça c'est tout en haut de la société, et puis descendre ensuite beaucoup plus bas.
Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand, vous nous emmenez avec vos invités à la découverte de celui qu'on appelle le plus vieux métier du monde.
Et oui, à l'occasion de cette exposition au Musée d'Orsay, et qui va d'ailleurs être accompagnée par toutes sortes de publications, notamment deux hors-séries qu'il faut citer, le hors-série de Marianne qui s'appelle « Au temps des maisons closes », 1850-1946, et puis le numéro spécial d'Historia, « Les prostituées des lupanars de la Rome antique à l'âge d'or des maisons closes ». Donc, je disais que nous allions faire une petite incursion rapide chez les grandes allongées, les grandes horizontales, comme on disait, les courtisanes en quelque sorte. Il faut dire que c'est une partie très particulière là de la prostitution, Isolde Pudermacher.
Oui, Gabrielle en parlerait sans doute mieux que moi, puisqu'elle a étudié le livre des courtisanes, un registre tenu par la préfecture de police, où ces femmes, ces grandes horizontales, étaient en effet étudiées avec les relations vénales qu'elles pouvaient entretenir. Et Alexandre Parent du Châtelet, qui était vraiment le principal théoricien de la prostitution au XIXe siècle, désignait ces femmes comme étant les plus dangereuses de la société, puisqu'elles corrompaient les plus hautes sphères de la société.
Alors, elles, certaines d'entre elles en tout cas, font faire leur portrait le plus officiellement du monde, il faut le dire.
Oui, elles ont recours à des peintres officiels comme Carolus Duran, Gervex ou Amaury Duval. Et d'ailleurs, leurs portraits reprennent en tout point les codes des grands portraits traditionnels, à l'exception de petits détails comme un regard très assuré, une pose conquérante, une cheville visible, autant de choses que l'on ne verrait pas dans un portrait officiel, justement.
Pour le peintre, c'est une licence supplémentaire, sans doute, et c'est l'occasion de traduire sans doute toutes sortes de fantasmes.
Oui, c'est aussi comme ces portraits étaient montrés au salon officiel, donc visibles par un grand public, c'était une manière aussi pour ces artistes de se faire connaître, puisque ces courtisanes étaient extrêmement célèbres, c'était l'équivalent des stars d'aujourd'hui, leurs moindres faits et gestes étaient rapportés dans la presse, du coup par ces portraits de femmes célèbres, les artistes qui les peignaient gagnaient aussi en célébrité.
Alors, au-delà de ces courtisanes, disons, il y a deux types de prostituées. Il faut bien expliquer. Tout à l'heure, j'ai parlé de filles soumises lorsque mon personnage, la Michel, mon témoin, était allé se faire inscrire au registre de la préfecture, justement. Il y a les filles soumises d'un côté et les filles dites insoumises. Qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire, en quelque sorte, Gabrielle?
Les filles soumises sont celles qui sont soumises à l'autorité de la police. Donc, effectivement, elles se font enregistrer sur des registres, soit dans les mairies, soit à Paris, à la préfecture de police. Donc elles peuvent travailler ou dans les maisons closes ou dans la rue, hein, celles qu'on appelle les pierreuses. Et puis vous avez donc les autres, qui sont les clandestines, dont les hautes courtisanes sont des clandestines de notoriété publique, c'est parce qu'en fait tout le monde les connaît bien évidemment. Et ces femmes travaillent par elles-mêmes et ne se sont pas enregistrées auprès de la police, et ce qui leur permet d'éviter en particulier les très redoutées visites du service médical, à Saint-Lazare en particulier au dispensaire de médecine, parce que c'était une épreuve quand même que cet examen gynécologique, hein, qui était extrêmement brutal et que les
et même humiliant volontairement d'ailleurs, hein,
volontairement
sans doute.
Volontairement pas, ça devait dépendre des médecins, j'imagine, mais certainement souvent et en tout cas très brutal, ça assurément. Donc ça leur permettait d'éviter ça et de travailler. Alors dans ce monde des clandestines qui sont beaucoup plus nombreuses, il mais faut oui. insister mmh. là-dessus, que les femmes soumises, dans ce monde il y a encore une fois des degrés de fortune extrêmement différenciés et donc ça va de ces très hautes courtisanes jusqu'à vraiment la femme qui se prostitue pour très peu de choses et qui essaie juste de survivre.
Alors cette prostitution sur le trottoir, si je puis dire, on la voit naître très tôt, elle existe
au 19e siècle,
oui, au 19e siècle, oui.
Au 19e siècle, oui.
On la voit constamment,
oui,
disons.
Oui,
hein,
oui. Bien avant, bien sûr, elle est toujours là. Je pense pas qu'il y ait spécialement de dégradation des conditions de travail. Alors, il faut peut-être insister sur le fait que la plupart du temps, c'est en fait un type de prostitution, du moins chez les clandestines, temporaire, occasionnel. Souvent, sont des femmes qui peuvent avoir déjà un métier, un état, qui simplement ont du mal, pour un tas de raisons, à joindre les deux bouts, comme on dit, et qui ont donc recours à une activité supplémentaire de façon à pouvoir nourrir leur famille, leurs
quasi
enfants.
Quasi contingente, en fait.
Presque.
Est-ce qu'on peut établir donc le rapport de proportion entre les soumises
oui.
et les insoumises,
oui,
d'une certaine manière?
Une soumise pour sept insoumises. Hein.
Oui,
six,
donc
sept insoumises.
C'est-à-dire
oui,
c'est un phénomène beaucoup plus massif,
oui,
en quelque sorte.
Oui, absolument. Hein. Oui.
Et est-ce que ça a autant inspiré les artistes, cette prostitution sauvage, d'une certaine manière, Isolde Plüderer-Marin?
Oui, parce que dans l'espace public, dans la rue, durant la journée, se confondaient femmes dites honnêtes et prostituées en carte ou bien prostituées insoumises. Donc ces équivoques ont particulièrement inspiré les artistes et les prostituées se signalaient par des signes plus ou moins discrets, comme par exemple un relevé de jupon ou une tenue particulièrement recherchée. Et ce sont autant d'éléments qui ont fourni une inspiration particulière aux artistes.
Merci beaucoup. L'exposition est jusqu'au 17 janvier au musée d'Orsay. Oui. Hein, donc, ça s'appelle Splendeur et misère, images de la prostitution. Il y a un très beau catalogue que j'ai là sous les yeux. Et puis, donc, un certain nombre de numéros spéciaux. Je signale d'ailleurs que vous avez participé au catalogue, Gabriel Houbre.
J'ai participé au catalogue et avec Isolde et Marie-Robert, nous avons aussi publié un collectif autour de prostitution avec un S, des représentations aveuglantes.
Exactement, en coédition Musée d'Orsay et Flammarion, justement sur ce thème de la représentation de la prostitution. Merci beaucoup à toutes deux.
Dans un instant, Franck Ferrand, vous reviendrez sur les origines d'un mot issu du vocabulaire de la prostitution.
Au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck, c'est une question de Jean via le site internet europe1.fr. Il veut en savoir plus sur l'origine du mot bordel.
Mais voilà, le mot est dit. Alors on utilise ce mot pour parler, vous le savez, des maisons dont nous venons de parler pendant une heure, mais aussi pour désigner un endroit désordonné, un bazar, quelque chose de voilà, une sorte de capharnaüm. Alors d'où vient ce mot? Eh bien, au départ, ça vient du mot borde, qui en ancien français voulait dire la petite maison, qui lui-même venait de borda, qui signifiait planche, pluriel du mot bord, et qui, dans un ensemble, signifierait maison de planche. Alors, aujourd'hui, le mot borde est utilisé dans certains dialectes encore, dans le sud-ouest, dans l'ouest, notamment vers la Normandie, pour parler de petites fermes. Vous avouerez que le mot n'est quasiment plus employé. Donc, un bordel, ben, c'est une petite maison, hein, tout simplement, dans le sens de lieu de prostitution. Le mot au singulier est devenu bordeaux, sans X, sans 15, sans 37 et bordel au pluriel avec un S en 1585. Pour comprendre les racines de cette version du mot, on raconte souvent l'histoire des marins qui ne pouvaient pas profiter des services des prostituées dans l'enceinte du port, car celle-ci n'avait pas le droit d'y accéder. Donc ils devaient se rendre dans les bordes qui formaient un quartier réservé et éloigné du port et qu'on appelait donc le bordeau ou, vous l'aurez compris, le bordel. J'avais aussi entendu une autre version, moi, qui parlait de Saint-Louis et qui disait que Saint-Louis avait avait exclu les prostituées de la cité, qu'elles s'étaient retrouvées au bord de la Seine, au bord de Lyon, et que de bord de Lyon, on était venu à bord de l'eau et bordel. Voilà, bon, voyez que ce sont des origines, en tout cas des étymologies qui sont de toute façon très proches. Vous ne me ferez pas reprononcer ce mot-là une fois de plus, je vous le garantis.